Le synode 2017 de l'Église protestante unie de France a élu sa nouvelle présidente. Écoutons dans un premier temps Laurent Schlumberger, le président sortant, puis, après une pause musicale, écoutons Emmanuel Sebolt. Bonjour Laurent Schlumberger.
Bonjour.
Laurent Schlumberger, vous êtes aujourd'hui président de l'Église protestante unie de France, mais plus pour très longtemps. Laurent Schlumberger, depuis quand êtes-vous président de cette Église protestante unie ?
En fait, j'ai effectué deux mandats successifs, donc je suis à cette fonction de président depuis 7 ans. Et les 3 premières années, c'était encore l'Église réformée de France, et puis en 2012 et 2013, l'Église évangélique luthérienne et l'Église réformée se sont unies pour constituer l'Église protestante unie de France. Et donc, je suis son premier président depuis 2013, donc ça fait 4 ans. Et je passe donc la main, en effet, ce dimanche, à la personne que le synode va élire.
Est-ce que ce changement d'appellation et cette réunion de deux églises a été l'événement majeur de vos mandats ?
Il y a eu plusieurs événements, mais sans doute que ça a été l'événement le plus emblématique. Celui qui concentre peut-être le plus de signification et le plus de choses. Parce que derrière cette union de deux églises, il y a un basculement dans une nouvelle époque, si on peut dire. Pendant très longtemps, pendant presque 5 siècles, le petit protestantisme français a été un protestantisme de petits troupeaux qui vivait à l'ombre d'un catholicisme tantôt tolérant, tantôt menaçant, tantôt écrasant. Et les protestants étaient au fond les chrétiens non catholiques de France, et ils représentaient souvent une version plus ouverte, plus intellectuelle, plus libre sur les questions de morale et de dogme par rapport à l'Église catholique. Et puis depuis quelques années maintenant, on a basculé dans un monde où l'Église catholique est devenue elle-même minoritaire, et plus largement où le paysage religieux a été complètement transformé avec l'arrivée de chrétiens venus du monde entier, avec l'échange des idées, des croyances qui se percutent, se rencontrent et se fécondent parfois les unes les autres, avec des recherches spirituelles beaucoup plus individuelles et beaucoup moins verticales. On ne transmet plus beaucoup les choses de génération en génération, mais chacun fait son propre chemin à chaque génération. Et à ce bouleversement correspond une transformation complète du protestantisme et du protestantisme traditionnel, classique, que représente l'Église protestante unie. Pendant presque 5 siècles, les protestants ont vécu comme un petit troupeau qui se serrait les coudes, et ils ont pris conscience que, ce monde ayant changé, il fallait trouver une nouvelle manière pertinente de devenir Église. Et cette manière pertinente de devenir Église, aujourd'hui, demain, c'est d'oser aller à la rencontre de nos contemporains pour leur proposer notre manière de comprendre l'Évangile, pour partager avec eux cet Évangile qui nous fait vivre. Nous ne pouvons plus simplement retransmettre ce que des grands anciens, des pères dans la foi nous ont donné. Nous devons habiter nous-mêmes nos convictions, les formuler avec nos propres mots et aller les partager bien au-delà de nos réseaux habituels, de notre petit monde, car il y a une attente. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui viennent à notre rencontre. Un quart des membres de notre Église, à peu près, n'en sont pas issus. Et donc, c'est toute la transformation dans laquelle notre Église est impliquée qui est colorée par cette nécessité de devenir plus et mieux une Église de témoins. Eh bien, au fond, la création de l'Église protestante unie, elle signifie ce changement, ce basculement d'un monde dans un autre. C'est pour pouvoir être mieux témoin qu'elle a été créée, qu'elle a été constituée. Et donc, derrière cet événement de 2012 et 2013, il y a toute cette mutation très profonde qui est en train de se vivre.
Une décision synodale qui, pour moi, a été représentative de ce témoignage de l'Évangile. Ça a été le synode de Sète, au moment où vous avez décidé la bénédiction des couples homosexuels. Est-ce que ça n'a pas été l'un de ces événements majeurs dont vous parliez ?
La décision que le synode national a prise en 2015 à Sète est une décision qui a fait beaucoup parler, qui a eu pas mal de retentissements médiatiques. Je ne dirais pas que c'est une des décisions majeures ou importantes ou qui va marquer en profondeur les choses. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de mousse ou de bruit ou d'émotions positives, quelquefois négatives aussi, que c'est un événement si profond que cela. Pourquoi est-ce que ça a fait beaucoup de bruit? D'abord parce que quand on parle de sexualité, on touche à l'intime. Et forcément, le mode passionnel prend le dessus, c'est bien normal. Et puis ensuite, parce que derrière les débats qui ont eu lieu, il y a eu des manières de comprendre l'autorité de la Bible, une manière de se référer au texte biblique qui peut beaucoup varier d'une personne à l'autre, d'une paroisse à l'autre. Si on lit la Bible en se demandant ce qu'il est dit de relations homosexuelles. Alors d'abord, le mot n'existe pas parce que c'est, si la réalité existait peut-être, nous la voyons aujourd'hui très différemment d'il y a 2000 ou 3000 ans dans le Proche-Orient ancien. Mais on voit qu'en effet, la Bible ne pose jamais un regard positif sur l'homosexualité. Donc pour des personnes qui ont tendance à se référer directement au texte biblique et à essayer d'y trouver une source immédiate pour le comportement aujourd'hui, forcément on ne peut avoir qu'un regard négatif sur l'homosexualité. Mais on peut se référer d'une autre manière au texte biblique, en se rappelant par exemple que les textes bibliques posent un regard négatif sur l'homosexualité, mais positif dans certaines limites sur l'esclavage, ou bien qu'ils enjoignent aux parents de punir et parfois de mettre à mort leurs enfants récalcitrants, et c'est pas pour ça que c'est quelque chose que nous faisons aujourd'hui. Il y a donc une manière plus distanciée qui tient compte des différences culturelles et des siècles qui nous séparent de l'écrit biblique pour imaginer aujourd'hui quelle doit être notre fidélité au message biblique. Donc entre ces deux pôles, que je caricature forcément un petit peu pour me faire comprendre, il peut y avoir des débats, et des débats très vifs, qui ont eu lieu dans le passé sur différentes questions. Par exemple, quand notre Église a réfléchi à ouvrir l'accès du ministère pastoral aux femmes, on a entendu des arguments très comparables. Ces débats reviendront sur d'autres questions, et au fond ce sont de bons débats, parce qu'ils nous interrogent sur notre responsabilité. Ce que je crois, c'est que les textes bibliques ne décident jamais à notre place, mais au contraire qu'ils font appel à toutes nos ressources individuelles et collectives pour que nous puissions ensemble prendre des décisions et avancer. N'oublions pas que la décision qu'a prise le synode de Sète en 2015 est une décision très précise. Elle ne concerne pas l'homosexualité en général ou la conjugalité en général, mais elle se situe sur un plan pratique face à une demande. La loi française venait d'ouvrir la possibilité à des personnes de même sexe de se marier. Certaines personnes se sont mariées, et certaines de ces personnes étaient membres de notre Église, et nous ont interrogé, est-ce qu'il est possible d'avoir un culte de bénédiction à l'occasion de notre mariage ? Eh bien, c'est à partir de cet angle-là que le synode a réfléchi. Il a d'ailleurs, dans un premier temps, évoqué beaucoup d'autres situations de la vie, puis il s'est concentré sur celle-là, et c'est par rapport à cette question concrète, pratique, qu'il a pris une décision en autorisant les églises locales et les pasteurs qui estiment que c'est une bonne manière, dans ces circonstances, d'annoncer l'Évangile. Il les a autorisés à le faire, sans rien imposer à ceux qui ne souhaitent pas le faire.
Laurent Schlumberger, lorsqu'on est président de l'Église protestante unie, est-ce un travail très différent du travail pastoral en paroisse ?
Fondamentalement, ce n'est pas un travail différent. Il s'exerce dans un cadre différent, avec des responsabilités particulières, mais fondamentalement, ce n'est pas un travail différent. Quand on entend le mot « président », on pense, parce que c'est comme ça que nous sommes faits, et puis l'actualité nous ramène à ça, on pense « programme », on pense « orientation », on pense majorité et minorité, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche dans l'Église. Le gouvernement de notre Église, c'est le synode national qui se réunit 4 jours par an, et entre ces sessions, c'est le conseil national de 20 personnes qui assure la direction de l'Église protestante unie. C'est donc ce conseil national que je présidais. Quelle est la source de l'action du synode et du conseil national? C'est d'essayer de chercher quelle est la volonté du Christ pour son Église aujourd'hui. Et au fond, c'est ça qu'on fait aussi en paroisse, en Église locale. Le conseil presbytéral fait la même chose dans son contexte à lui. Le pasteur d'une paroisse fait la même chose dans son contexte à lui. Nous faisons la même chose au plan national avec le conseil national. Donc il y a fondamentalement ce travail de lecture de la Bible, de réflexion collégiale, de recherche de ce qui convient le mieux, de recherche d'une fidélité concrète et pratique qui n'est jamais donné à l'avance, qui ne se transcrit pas dans un programme, mais qui se vit chemin faisant, comme dans toute la vie chrétienne, y compris dans les instances de direction de l'Église.
Laurent Schlumberger, vous venez de publier un ouvrage aux éditions Olive et Temps, « À l'Église qui vient ». Vous aviez publié dans la fin des années 90 un premier livre sur le seuil. Alors comment cette vision de l'Église a-t-elle évolué entre ces deux ouvrages ?
Je dirais que les intuitions que j'avais mises par écrit dans Sur le seuil au début des années 2000 se sont confirmées. C'est-à-dire que chemin faisant, le temps passant, on se rend compte qu'en effet, nous ne sommes plus du tout dans un contexte où on attend d'institutions religieuses, des églises par exemple, qu'elles donnent des indications claires sur ce qu'il conviendrait de croire ou ce qu'il conviendrait de faire. Déjà, ce n'est pas ce que font volontiers les églises protestantes, mais c'était un peu ça l'attente générale. Ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, nos contemporains ne cherchent pas ça, ils cherchent des témoins. Ils cherchent des personnes qui osent s'exposer et qui osent exposer leurs convictions dans les deux sens du terme, vous voyez, c'est-à-dire les partager, puis en même temps les mettre à l'épreuve de la rencontre, les mettre à l'épreuve de la réalité, les mettre à l'épreuve de la discussion. Des personnes qui osent s'exposer pour partager leurs questions, pour partager leurs convictions, pour partager l'évangile qui les fait vivre. Eh bien, j'ai pu constater au fil de ces années à la présidence de l'Église protestante unie et en compilant des textes, des discours, des prédications que je restitue dans ce livre, que cette intuition-là est l'intuition qui doit continuer à nous tirer en avant et qu'elle doit donc nous pousser à imaginer d'autres formes de présence, d'autres formes d'église dans la société pour rejoindre les personnes là où elles sont et non pas pour les attendre seulement là où nous sommes.
Que fait un président de l'Église protestante unie quand il quitte sa fonction ?
Alors, un président, je ne sais pas, mes prédécesseurs sont partis à la retraite ou ont pris en charge un service avant de devenir enseignant à la faculté. Moi, je retourne en paroisse. C'est moi qui l'ai souhaité. Je retourne en paroisse dans une petite église de Paris, dans un quartier extrêmement contrasté, avec des quartiers pauvres, socialement défavorisés, des quartiers au contraire très, très bourgeois, des hôpitaux, des gares, des endroits où il y a une forte concentration de migrants, d'exilés, de réfugiés. Un quartier où il y a aussi beaucoup d'interculturels. Et dans ce quartier, au cœur de ce quartier, il y a cette petite église qui va bientôt m'accueillir et qui essaie de trouver un nouveau souffle, une nouvelle manière d'être présente et de déployer sa fidélité à l'Évangile. Donc je la rejoins pour l'accompagner sur ce chemin et c'est un défi qui me mobilisera beaucoup, j'en suis sûr.
Merci Laurent Schlumberger de nous avoir donné ces quelques temps d'interview et bon vent dans votre nouvelle vie.
Merci.
Au revoir. Merci Laurent Schlumberger. Je vous propose tout de suite une pause musicale avant de retrouver Emmanuel Sebolt, nouvellement élue présidente de l'Église protestante unie de France. Bonjour Emmanuel Sebolt.
Bonjour.
Emmanuel Sebolt, l'Église protestante unie de France, lors de son synode 2017 qui vient de se terminer à Lille, vous a élu présidente de l'Église protestante unie de France. Ce n'est pas votre premier poste de responsable d'Église, Emmanuel Sebolt.
Non, en effet, j'ai été présidente du conseil régional de la région Est en 2013 et 2014 jusqu'à l'union de la région Est réformée avec l'inspection luthérienne de Montbéliard.
Vous voilà déjà expérimentée.
Un petit peu, un petit peu.
Alors, pour être élu président de l'Église protestante unie, de l'EPUDF, donc, Emmanuel Sebold, faut-il faire une campagne ?
Non, pas de campagne, effectivement, pas du tout. Il y a une commission qui réfléchit aux personnes qui peuvent être appelées à certains postes et qui fait la liste des tâches et puis du profil. Et donc, j'étais appelée. On m'a demandé si je pouvais me rendre disponible pour ce ministère. Et donc, c'était une très grande surprise. Je n'y attendais absolument pas. J'ai réfléchi un mois à peu près avant de dire que oui, j'étais disponible à recevoir cet appel. Il n'y a ni campagne, ni mise en concurrence de plusieurs personnes.
Alors, vous prenez la suite de Laurent Schlumberger, qui termine son mandat bientôt, même peut-être qu'il a déjà terminé à l'heure où nous parlons.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, à la fin du synode, le dimanche midi, le conseil sortant achève son mandat et j'ai pris ma fonction tout de suite.
Tout de suite après. Alors,
oui, tout de suite, ouais.
Quels sont les grands chantiers que vous souhaitez prendre en main tout de suite, voilà, dès maintenant ?
Alors, c'est le président est bienvenu pour avoir des idées, mais ce sont les recommandations du synode qui comptent. Ce sont les vœux du synode et les orientations que le synode donne au Conseil national qui priment et qui sont importantes. Et une impulsion a été donnée depuis déjà plusieurs années dans notre Église pour approfondir et apprendre à mieux témoigner de sa foi, comment dire notre foi. Et d'ailleurs, lors de ce synode, nous avons donc voté un texte de déclaration de foi qui se veut à la fois un encouragement personnel pour la foi de chaque membre de l'Église, mais un encouragement aussi à dire sa foi à d'autres et avec d'autres. Et ce texte de déclaration de foi va dans le sens du témoignage renouvelé. Et donc ce témoignage était et reste la priorité de notre Église. Alors, il y a aussi d'autres chantiers qu'il va falloir ouvrir, comme tenter de renouveler le corps pastoral. Non pas que nous ayons, comment dire, un déficit d'entrée, mais nous allons avoir beaucoup de départs en retraite, et donc il faut qu'on augmente nos entrées de nouveaux pasteurs, tout simplement. Et puis, il faut aussi renouveler la lecture de la Bible, qui, même si les protestants sont réputés être de bons lecteurs de la Bible, la réalité est loin de notre réputation. Voilà un peu les chantiers qui sont devant nous.
Alors, quels sont les aspects de ce ministère, Emmanuel Sebold, que vous appréhendez le plus ?
Ah, qu'est-ce que j'appréhende le plus ?
Peut-être rien d'ailleurs, peut-être rien.
Si, aussi. Non, j'appréhende beaucoup de choses, mais ce qui me paraît le plus difficile, c'est être ouvert à la bonne inspiration de l'esprit, saisir quand c'est le bon moment de lancer tel ou tel dossier, savoir donner la bonne impulsion, voilà. Avoir aussi l'esprit de synthèse des idées autour. Au conseil, ce sont 20 personnes au conseil, donc il faut pouvoir faire travailler ces 20 personnes ensemble et faire en sorte que les richesses de chacun soient une véritable dynamique pour l'ensemble.
Emmanuel Sebold, vous allez avoir un emploi du temps probablement très, très chargé. Comment est-ce que vous allez occuper votre temps libre ?
Ah, mon temps libre ? Eh bien, le temps libre, c'est être avec les enfants, aller faire du shopping avec ma fille parce qu'elle adore ça, c'est faire de la musique, écouter de la musique, et puis comme j'arrive sur Paris, eh bien, peut-être découvrir cette ville magnifique dans laquelle j'ai été 3 ans pour mes études, mais où à l'époque, j'avais pas forcément la possibilité d'aller au musée. Alors bon, essayer de profiter de cette richesse, mais je sais que le temps libre sera quand même réduit. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, et bon vent pour ce nouveau ministère.
Merci à vous.
Au revoir. Emmanuel Sebolt et Laurent Schlumberger étaient les invités de FM+ 91 FM à Montpellier.